Merci, bonsoir. D'abord une petite parenthèse, hein, parce que l'histoire que vous racontiez à propos de la fille qui est à l'étranger et qui fait irruption à nouveau dans la famille alors qu'elle s'est un petit peu désintéressée pendant pas mal d'années, ça fait vraiment penser à ce mot de Paul Ricoeur à propos du prochain qui est finalement un mélange du proche et du lointain.
Non, il y a Ricoeur, mais il n'y a pas que Ricoeur, c'est déjà dans la Bible. Aime ton prochain, mais aussi aime ton lointain. Et pour être proche, il faut être lointain aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de proximité sans éloignement. Vous avez des textes de l'évangile là-dessus. Alors, il faut avoir une capacité de distance pour ne pas être dans la fusion. Donc, pour assister l'autre, il faut qu'il y ait une complicité, mais il faut une capacité de distanciation, ne serait-ce que critique.
Sauf que là, c'était vraiment l'absolu. Alors, si vous permettez, puisque vous avez parlé du Caire, j'aurais voulu vous préciser un petit peu votre opinion là-dessus, votre pensée. Vous avez dit tout à l'heure que on était passé du paternalisme médical à une espèce d'autonomisme à tout craint. Est-ce que l'irruption maintenant du Caire, qui est quand même une importation anglo-saxonne, ne va pas faire introduire maintenant une forme de maternalisme médical, sachant que le Caire vient quand même d'un mouvement féministe et justement, enfin, quand on lit ce qu'écrit Carol Gilligan sur le Caire, chacun doit cesser de faire taire cette voix féminine que l'on a tous en nous. Et donc, est-ce que le risque n'est pas de revenir maintenant, enfin, le balancier ne revienne pas vers le paternalisme mais aille vers une forme de ce que on pourrait parler de maternalisme médical?
Je ne suis pas compétent à Lille pour répondre à cette question. Vous demanderez à votre mairesse qu'elle vous fasse un jour un exposé. Je suis sûr qu'elle sera loquace. Juste, si vous voulez une petite indiscrétion, nous on s'était posé la question pourquoi du jour au lendemain une femme politique de qualité, ici en particulier avec tout son rayonnement, use du terme de Caire, enfin, je veux dire, qui était assez surprenant. Et on a fait notre enquête éthique. Et en fin de compte, elle a un conseiller en éthique qui est Jean-Claude Ameisen, qui est le président du comité d'éthique de l'INSERM. Vous pouvez écouter tous les samedis sur France Inter, elle a maintenant son émission, une personne de grande qualité, et donc qui la conseille pour les questions éthiques, bioéthiques et plus largement de société. Et c'est lui qui fait passer le message du Caire, parce que c'est un message qui se développe de plus en plus, qui se déploie de plus en plus dans le soin, ne serait-ce qu'à travers le soin palliatif. C'est-à-dire, c'était pas la médecine palliative au départ, c'était le soin, et donc il y a toute une réflexion qui est en opposition avec le tout bioéthique, avec la technicité du soin, qui s'est développée, j'allais dire, en résistance aux évolutions fortes, notamment biomédicales. Donc on voit par exemple, quand on analyse le mouvement des soins palliatifs en France, c'est une transposition d'un mouvement anglo-saxon, protestant d'une certaine manière au niveau de la culture, avec tout un ensemble de valeurs, tout un ensemble de rapports, notamment à la douleur, et qui va avoir du mal à se développer dans la société française médicale, qui était une de sociétés encore vouée au concept de la catharsis, enfin je veux dire, qui était finalement assez catholique. Hein. L'ordre des médecins, enfin les valeurs médicales étaient plus des valeurs morales que des valeurs entre guillemets éthiques. Donc ça c'est un point à prendre en considération. Mais l'histoire donc du soin palliatif, le soin, à mon avis, les historiens du futur, selon l'expression de Michel Foucault, probablement analyseront la pénétration du concept de soin, de care en quelque sorte, par rapport au cure, à travers, en tous les cas chez nous, la démarche du palliatif, qui est une démarche globale de retour à une prise en compte de la personne dans sa globalité, bref, toute une réflexion de fond. Donc pour revenir maintenant à votre féminisation, de toutes les manières, la pratique médicale se féminise aujourd'hui. Regardez les étudiantes en médecine aujourd'hui. Alors ça pose un certain nombre de questions, chacun fera ses analyses, mais je me garderai bien de faire des commentaires sur la féminisation des pratiques médicales aujourd'hui, que chacun peut expliquer d'une manière ou d'une autre. Je referme la parenthèse aussi vite ouverte que fermée. Mais ce à quoi je faisais allusion, c'était à la fonction de proche, qui est une fonction davantage dévolue à la femme, à la fille, à la nièce, enfin je veux dire, au féminin, ce rôle d'assistance familiale, hein, un petit peu dans toutes les études de proximologie, c'est davantage la féminité qui naturellement aurait incarné cette fonction, beaucoup plus que, entre guillemets, la masculinité. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose, mais c'était pour ça que je donnais cette notion de care, effectivement, qui renvoie à une certaine forme de sollicitude dont tous les concepteurs de la théorie du care disent, puisque c'est quand même une théorie aussi basée sur une analyse sur les genres, etc., qu'il y a de la féminité. Je dis pas, bon, voilà, je réponds assez rapidement. Dans l'histoire de la, du paternalisme, c'est très schématique ce que je dis, mais c'est très ouvragé. C'est comment on est passé d'une culture du paternalisme médical à une culture de l'autonomie ou de l'autonomisme, dont toutes, en matière d'éthique, les racines, on peut toujours trouver tout un ensemble de réflexions chez des philosophes continentaux, se trouvent dans la littérature anglo-saxonne. C'est-à-dire on a une éthique très inspirée de concepts anglo-saxons. Et nous, on suit, je serais bien intéressé que Jean-Philippe Cobo, qui est dans la salle, il est toujours là ou pas? Non? Où il a déjà disparu. Voilà. Donc Jean-Philippe Couveau, qui enseigne à Louvain et qui travaille aussi à Lille, donne lui son interprétation. Mais dans notre interprétation, j'ai dit quasiment historique, on voit la notion d'autonomisme se développer dans les années SIDA. Avec des malades jeunes, éduqués, qui, je parle des premiers malades du sida, qui ont un sentiment d'eux-mêmes, enfin je veux dire, toute une culture foucauldienne, et qui dans les premières années du sida veulent être co-responsables de tout. C'était le slogan d'ACT UP, le silence tue, donc veulent accéder à l'information et veulent être partenaires dans la prise de décision. Et cette génération de malades qui va développer l'expertise profane, souvent ils ont une expertise qui est au même niveau que des médecins dans les premières années sida, donc il y aura un conflit d'expertise, un conflit de légitimité, il y aura une autorité qui sera prise par des grandes associations comme Aide, qui va être inventive de tout, dans un contexte où personne vraiment voulait créer les bases et les principes pour l'approche du sida. Donc on voit se construire une culture de l'autonomisation de la personne malade, à laquelle d'ailleurs historiquement des grands médecins vont participer, les Willy Rosenbaum, enfin tous ces médecins-là sont dans cette culture, une culture d'ailleurs politique, hein, c'est-à-dire c'est une vision du monde, une vision de la société. Un des grands fondateurs de l'association Aide, c'est Jean-Florian Mettetal, qui est un médecin généraliste, qui est mort du sida, et qui me racontait à l'époque, lui il voulait devenir gériatre, parce que dans sa vision des choses, il pensait que c'est la gériatrie qui ferait avancer la médecine dans les années qui viennent. C'est-à-dire, il pensait que c'était le vieillissement qui serait vraiment l'enjeu politique fondamental. Et il s'est retrouvé confronté au sida, et pour lui son approche est une approche politique, citoyenne, en termes de démocratie, et en termes également de contestation d'un pouvoir médical, hein, tout ce qu'on va retrouver dans la loi du 4 mars, et qui va être poussé, j'allais dire quelquefois à l'extrême, dans le discours de Bernard Kouchner, en disant les faibles, les opprimés, c'est les malades, hein, donc un rapport de force, et puis vous avez ceux qui ont l'autorité, le pouvoir, le savoir, etc. Donc le concept d'autonomisation se développe dans ces années-là. La vraie question, c'est que pour être autonome par rapport à la maladie, il faut vraiment ne pas être malade. Parce qu'il n'y a rien de plus hétéronome qu'une personne malade. Même un médecin, j'allais dire, qui est malade, n'est pas très autonome par rapport à la maladie. Donc c'est une espèce de mystification. Et nous, on a travaillé, par exemple, dans le décret de la loi du 4 mars sur l'accès au dossier médical, donc à l'information. Tout le monde disait, c'est la prise de la Bastille. C'est-à-dire, il faut absolument que la personne malade puisse accéder à la totalité de l'information. Moi, je ne suis pas médecin, d'accord? Vous pouvez toujours me donner mon dossier médical. Je ne sais pas ce que je vais faire à l'information. Si ce n'est que c'est comme pour le consentement. Au moins le médecin dira ou pensera que je peux éventuellement le soumettre à quelqu'un directement. Enfin bon, ça peut être psychologiquement quelque chose qui modifie la relation. Mais avant qu'il y ait le dossier médical, c'est ce qu'on avait nous proposé dans le décret qui n'a pas été retenu. On disait il faut le dossier partagé, s'il se fait de plus en plus. C'est-à-dire vous êtes avec une personne malade, au fur et à mesure vous lui donnez les examens qu'il souhaite lui-même engranger, conserver, avec une explication, une pédagogie, avec tous les débats sur l'éducation thérapeutique qui sont aussi des débats assez discutable d'un point de vue éthique, parce que tout le monde n'a pas envie d'être éduqué à sa maladie. À se dire. Donc on est dans des mystifications, mais qui sont utiles politiquement, puisque si vous considérez que toute personne atteinte de telle et telle maladie doit être partenaire également dans son auto-traitement, ben vous défaussez aussi le professionnel d'une responsabilité qui n'est plus en capacité d'assumer. Donc il faut lire tout ça aussi de manière plus intriquée. Donc pour résumer, si vous ne dérange pas, j'aimerais bien avoir, au moins je serais venu à Lille pour écouter Jean-Philippe, c'est la distinction qu'il fait entre autonomie et paternalisme. Nous, notre vision un peu caricaturale des choses, le paternalisme médical renvoyé à des valeurs d'autorité, à des valeurs de non-discussion, de protection de la personne, comme on protège des mineurs, des enfants. C'est dans le discours d'ailleurs d'un certain nombre de grands maîtres de l'ordre des médecins, où il y avait toute notion, il faut protéger le malade, il faut surtout pas lui dire la vérité. Et vous avez, si vous regardez dans l'histoire par exemple du cancer, la révolution à la Ligue nationale contre le cancer, c'est quand ils ont engagé Claire Compagnon. La Compagnon qui était l'ancienne directrice de l'AIDE, ils engagent Claire Compagnon à devenir responsable à la Ligue d'un militantisme qui va aboutir aux états généraux du cancer, où quelques années plus tard, les états généraux du sida, c'est 87, quelques années plus tard, vous avez les états généraux du cancer, où les malades atteints de cancer vont revendiquer les mêmes droits, droit à la dignité, droit à l'information, etc. Et vous aurez ensuite, dans les plans cancer, une transposition. Tout ça pour vous dire comment ça s'est construit. C'est-à-dire sur l'autonomisation, accès à l'information, oui, soins palliatifs aussi, en fait, tout ces questions-là, c'est des questions qui avaient été abordées dans un concept, en tous les cas général, qui était l'autonomisation, mais qui a ses limites. Si vous êtes vulnérable dans la maladie, vous attendez aussi de pouvoir faire confiance à un médecin. Et ce qui s'est accentué, c'est que la notion d'autonomisation a été maintenant enrichie par Internet et la justification des pratiques. Donc les médecins disent, écoutez, vous avez telle pathologie, vous irez voir sur Internet, vous irez vous renseigner auprès de vos associations, et quand vous aurez pris votre décision, vous viendrez me voir. Comme ça, oui, tout ça avec une traçabilité, etc. De telle sorte que beaucoup de médecins reçoivent en consultation, alors qu'ils ont 10 minutes à consacrer à la personne malade, déjà la personne qui vient avec son dossier internet, d'accord. D'ailleurs, j'ai vu, on fait ceci et cela, etc. On voit comment ça améliore la qualité de la relation et comment ça stabilise la personne malade.